voix nue. Cette semaine, Marie-Laure Delorme rencontre Amélie Nothomb. Ce soir, la construction d'une œuvre.
Bonjour Amélie Nothomb.
Bonjour Marie-Laure Delorme.
Dans cette troisième partie d'À voix nue, nous allons parler de la construction de votre œuvre. Avant de parler de littérature, puisque vous êtes écrivaine, avez-vous une sensibilité à d'autres formes d'art ?
Oui, j'aime plus que tout la musique. Malheureusement, je n'ai pas l'ombre d'une culture musicale. J'appartiens à une famille où personne n'est musicien. Je n'ai jamais appris à jouer d'aucun instrument. Le solfège m'est radicalement inconnu. Donc je parle de la musique comme une analphabète, mais rien ne me plaît autant que la musique et rien ne me fait autant d'effet que la musique. Je suis écrivain parce que je n'ai pas pu être compositeur. Si j'avais pu choisir mon talent, je serais compositeur. Cela signifie quand même que, à mon très humble degré, en écrivant mes livres, je fais non pas de la musique, ce serait très excessif dans mon cas, mais je crée mon son. Je vois bien que de toutes les contraintes qui entrent en jeu quand j'écris, la contrainte phonique est celle qui m'importe le plus.
Donc quand vous parlez de musique classique.
Alors, quand j'étais petite, oui, il faut y inclure la musique japonaise, puisque mon père, il est arrivé une aventure étrange à mon père, des circonstances de sa vie ont fait qu'il est devenu le premier chanteur de no, le no étant l'opéra médiéval japonais, le premier chanteur non japonais de no. Donc j'ai passé un nombre extraordinaire de mon enfance au no, à entendre mon père psalmodier pendant des heures, vu que les spectacles de no ont une fâcheuse tendance à durer 4 heures. Aujourd'hui, je me réjouis qu'un spectacle de no dure 4 heures. Quand j'avais 3 ans, je me souviens que je trouvais ça juste interminable. Et puis quand on n'a jamais entendu de no, c'est juste effrayant. Donc ça a commencé par la musique classique, en ce compris la musique classique japonaise. Ça s'est continué plus récemment par... quand je suis arrivée en Europe, j'ai découvert le rock, le métal. Et vous n'allez pas le croire, mais j'ai extrêmement accroché et au rock et au métal. Là encore, on ne peut pas dire que je suis une personne qui a une énorme culture là-dedans, mais j'aime énormément ça.
Et le cinéma, est-ce qu'il vous arrive d'aller de temps en temps ou souvent au cinéma ?
Mais j'adore le cinéma. J'aime tellement le cinéma que je ne possède rien chez moi qui me permettrait de voir un film en DVD. Je trouve navrant de voir des films autrement que dans les salles obscures. C'est se priver de la magie du cinéma que de le voir autrement que dans une très grande image, dans le spectacle. Si je vivais seule, j'irais au cinéma absolument tous les jours. Je ne vis pas seule, moyennant quoi je vais au cinéma 3 fois, 4 fois par semaine.
Donc, j'en conclus que vous n'avez pas succombé à la passion pour les séries.
Non, je n'ai pas succombé à la passion pour les séries. La seule série à laquelle j'ai accroché, c'était il y a une dizaine d'années, c'était Desperate Housewives. Je pense que c'est une très bonne série. Je veux croire que depuis, ça a beaucoup évolué, mais je pense quand même que ça avait toutes les caractéristiques d'une très bonne série. C'était passionnant, c'était très bien écrit et tout cela. Et surtout, c'était extrêmement addictif. Je crois que c'est ce qui m'a dissuadée de continuer dans les séries. Même si je trouvais ça formidable, je ne supportais pas le côté addictif de la série. Ce côté addictif me faisait penser aux chips, vous savez. Je déteste les chips, je trouve ça très bon, mais je ne supporte pas qu'on soit obligé de continuer. J'aime qu'un aliment me laisse un peu de libre arbitre. C'est la même chose pour les séries. Je ne supporte pas de ne pas avoir le droit de faire autre chose que de regarder une série. Raison pour laquelle, quand j'ai fini Desperate Housewives, je me suis dit, bon, maintenant t'as compris. Hein. Si tu commences autre chose, c'est cuit, tu ne fais plus que ça de toute ta vie. J'ai beaucoup d'amis qui ne font plus rien d'autre de leur vie que de regarder des séries. Donc non, moi j'ai arrêté.
Êtes-vous toujours une grande lectrice ?
Je suis une méga lectrice. J'ai commencé ma carrière de lectrice avant l'âge de 3 ans et ça n'a pas cessé de s'aggraver. Je ne conçois pas qu'on soit écrivain si on n'est pas d'abord lecteur. Je suis lectrice depuis beaucoup plus longtemps que je suis écrivain et le fait d'être écrivain à plein régime fait que j'ai encore plus besoin de lire, parce que plus on écrit, plus il est passionnant de lire, plus il est fascinant de voir comment font les autres, de même qu'un grand cuisinier éprouve un besoin fou d'aller manger chez les autres cuisiniers pour voir comment l'autre fait sa soupe ou sa sauce, pour le deviner. J'éprouve follement le besoin de continuer de lire les classiques, de les relire, et aussi de découvrir les nouveaux écrivains.
Justement, on va parler des nouveaux écrivains, mais d'abord les classiques. Quels ont été vos grands chocs littéraires, si vous deviez en citer quelques-uns?
Oh, il y en a eu énormément, l'embarras du choix, mais je pense quand même que je dois citer Monterland, découvert à 14 ans, pas du tout parce qu'il est mon écrivain préféré, mais parce que ça a été un tel choc. J'ai commencé par lire Les Jeunes Filles, le cycle des quatre tomes des Jeunes Filles de Monterland, quand j'avais 14 ans, c'est-à-dire précisément quand j'étais en train de devenir une jeune fille. Or, vous le savez, Les Jeunes Filles de Monterland, c'est le pire procès de la contre la féminité qu'on ait jamais écrit. C'est l'œuvre d'un grand misogyne, bien sûr, mais qui connaît son sujet et qui dit en connaissance de cause toutes les horreurs qu'on peut dire sur la féminité, et ce qu'il dit, quoi qu'on en dise, est vrai. Oui, il y a moyen de dire ça sur les femmes. Oui, il y a des femmes comme ça. Elles sont même extrêmement nombreuses. Oui, il y a moyen de devenir comme ça quand on est une femme. Donc ce livre m'a plongée dans un état de paranoïa profonde quand je lisais ce livre, et je l'ai relu plus de 100 fois. Quand je lisais ce livre, je me souviens que j'étais à la fois possédée et épouvantée. Je me disais sans cesse, voilà ce que je ne dois en aucun cas devenir. J'espère que j'ai réussi à ne pas devenir l'une des nombreuses femmes abominables décrites dans Les Jeunes Filles de Monterland. Mais je peux vous témoigner par la suite que je suis devenue écrivain. J'ai reçu moi-même énormément de lettres de lecteurs et de lectrices. Je n'ai rien à voir avec Costals, le personnage du narrateur du livre, mais toutes les lettres de femmes bizarres, tordues et monstrueuses qu'il y a dans le livre, je les ai toutes reçues en 250 exemplaires. Donc toutes ces femmes continuent d'exister, même si maintenant les femmes sont libres. Donc c'est effrayant quand même la féminité.
Là, vous allez recevoir du courrier, Amélie Nothomb.
Mais oui, mais j'invite toutes les femmes à faire pareil que moi. Je suis une femme féministe. J'aime les femmes. C'est raison de plus pour dire aux femmes, mais lisez Les Jeunes Filles de Monterland, sachez ce qu'il faut éviter. C'est un livre honnête, il n'a rien inventé, ces monstres féminins qu'il décrit dans ce livre existent. Donc il est bon de lire ce livre pour ne pas devenir l'une de ces femmes-là.
Est-ce qu'il vous arrive de pleurer à la lecture d'un livre, d'être submergé par l'émotion? Et si oui, quel livre?
Figurez-vous que ça m'est arrivé pour la première fois, alors que je suis une lectrice invétérée depuis un très grand nombre d'années, pour la première fois, j'ai éclaté en sanglots, il y a 3 mois, en lisant le premier livre d'Adélaïde Bon, qui s'appelle La petite fille sur la banquise. Bon, c'est un excellent livre, hein,
Chez Grasset.
chez Grasset. Et tout à coup, j'étais en train de lire ce livre, et tout à coup, je me suis rendu compte qu'il m'arrivait un truc absolument pas normal. J'étais en train d'éclater en sanglots. C'est bravo à l'auteur.
Les mots ont donc un pouvoir.
Oh mon Dieu, oui.
Est-ce que vous vous souvenez de mots lus, de mots prononcés qui vous ont fait particulièrement du bien ou particulièrement du mal?
Alors, des mots prononcés qui m'ont fait particulièrement du mal, j'en ai de grands souvenirs. Bon, ce que je disais tout à l'heure sur ma grand-mère, ça a l'air
J'y
d'une
pensais.
boutade, mais ça m'a fait énormément du mal.
On va rappeler ce que votre
Donc, ma
grand-mère vous
grand-mère me
disait.
découvre à l'âge de 17 ans. Elle me dit, eh bien, ma petite, j'espère que tu es intelligente parce que tu es tellement laide. Bon, j'étais déjà persuadée d'être une monstruosité de la nature. Je parle d'une monstruosité physique. Ce que me renvoyait le miroir était déjà vraiment pas fameux. Mais en plus, avoir la confirmation dans la bouche d'une personne qui est censée être votre grand-mère, donc à la base quelqu'un de plutôt indulgent envers vous, ça a été une abomination. Par la suite, j'ai tellement essayé d'être rassurée sur mon physique. Je crois que les gens ne s'en rendaient pas compte. Ma mère, qui est pourtant une femme très gentille, je lui disais vers le même âge, je lui disais, Maman, est-ce que je suis jolie? Et elle me répondait, tu es touchante, ma chérie. Alors ça, cette réponse, je me souviens que cette réponse m'achevait. Je me disais, oh mon Dieu, je crois que tout est dit. Tu es touchante, ma chérie. Ben, vraiment, je dois vraiment être hideuse. Donc, beaucoup de mots sur mon physique m'ont vraiment fait un mal de chien. Symétriquement, la première fois qu'on est tombé amoureux de moi, parce que si étrange que ça puisse paraître, il a pu arriver que des individus tombent amoureux de moi. Le fameux « tu es belle », bon, ça arrivait bien tard, mais ça fait beaucoup d'effet.
Il a été consolateur.
Oui, mieux que ça, enfin, il m'a pas convaincue en même temps. Je suis toujours convaincue que je suis une monstruosité de la nature, mais il m'a convaincue que il était quand même possible qu'une personne sur Terre me trouve belle. C'est déjà colossal.
Est-ce que Amélie Nothomb, écrire est un travail comme un autre ?
Non. Je le sais parce que j'ai fait d'autres métiers. J'ai été, je le répète, dame pipi dans une entreprise japonaise. Auparavant, j'ai été comptable dans une entreprise japonaise. C'était épouvantable. Donc non, écrire n'est pas un travail comme un autre. C'est aussi un travail en ceci que ça demande beaucoup de temps. Ça demande énormément d'efforts. C'est très difficile. Il faut beaucoup s'appliquer. C'est pas une partie de plaisir. Mais non, on peut pas dire que ce soit un travail comme les autres. Même si écrire peut être terrible, je regrette. C'est pas nettoyer des chiottes. C'est pas descendre à la mine. On est quand même très privilégié quand on écrit un livre. Quand on a la possibilité d'écrire un livre, on est quand même très privilégié. Je ne peux pas dire que ce soit un travail comme les autres.
Est-ce qu'il faut beaucoup d'humilité ou beaucoup d'orgueil pour être un écrivain ?
Je pense qu'il faut les deux. À la base, il faut évidemment un orgueil phénoménal, parce que quand même, pour s'imaginer qu'après tous les chefs-d'œuvre qui ont été écrits, on a encore quelque chose à écrire, il faut quelque part un orgueil phénoménal. Cet orgueil suppose justement une humilité sans nom, parce que si vous voulez justement devenir un jour un écrivain digne de ce nom, alors il va falloir énormément d'humilité, parce que bien évidemment ça ne va pas arriver tout de suite que vous écriviez quelque chose qui ressemble à quelque chose. Vous allez passer par des années et des années, des manuscrits et des manuscrits complètement nuls, complètement honteux, qui ne ressemblent à rien. Ça, c'est ce que je me tue à expliquer aux innombrables jeunes d'aujourd'hui qui me disent « je veux devenir écrivain, ça tombe bien, j'écris un manuscrit, je cherche à le faire publier ». J'ai toujours envie de leur dire « mais pourquoi vous précipitez-vous ? Vous croyez vraiment que ça va arriver tout de suite ? Bah, je peux vous lire votre manuscrit, je peux vous envoyer la réponse de Rilke, mais d'abord lisez Rilke, mais par ailleurs, je peux vous le dire, j'ai lu votre manuscrit, je ne veux pas vous dire que c'est mauvais, puis il n'y a pas de honte, vous savez, moi aussi j'ai écrit des manuscrits qui n'en valaient pas la peine, mais il faut énormément d'efforts pour y arriver. Non, vous n'avez pas la science infuse, non, si vous parvenez à le faire un jour, ça signifiera que vous aurez beaucoup, beaucoup écrit pour en arriver là. Et bien sûr, ça suppose une humilité extrême. Ça suppose que vous soyez capable d'entendre que ce que vous avez fait n'est pas bon. Ça suppose, et ça c'est encore plus dur, ça suppose que vous soyez capable vous-même de vous rendre compte que ce que vous avez écrit est vraiment complètement raté. Et pour ça, il faut beaucoup d'humilité.
Il faut le rappeler, vous écrivez tous les jours de 4h à 8h. Est-ce que la différence est le grand thème de tous vos livres ? Ou vous ne voyez pas les choses ainsi ?
Je ne vois pas les choses ainsi. Je pense que le grand thème conscient de tous mes livres, c'est l'affrontement. L'autre est la grande affaire de ma vie. Je crois bêtement peut-être que c'est la grande affaire de toutes les vies. Ce qui rend la vie fascinante, c'est que l'autre existe. Encore faut-il entrer en contact avec lui. Là commence l'affrontement. Parfois des affrontements extraordinaires, parfois des affrontements dramatiques. Il faut bien le dire, ça se passe rarement bien. Donc voilà, je pense que tout ce que j'écris, c'est des traités de stratégie d'approche ou d'évitement de l'autre. C'est ce qui me frappe le plus à travers tous mes livres. Qu'à côté de ça, mes personnages et leurs différences, oui, sans doute, mais là encore, ce n'est pas une recherche. Et puis, comment faire autrement ? Nous sommes effectivement tous différents. On m'a souvent dit, oui, vous cultivez votre différence. Croyez-le ? Non. Je ne sais pas si je suis différente. Si je le suis, c'est certainement ma façon à moi d'être comme tout le monde, puisque tout le monde est différent. Donc, je n'ai pas l'impression de cultiver ni ma différence, ni celle des autres. Je crois qu'être qui que ce soit est terriblement problématique. Je l'ai constaté sur moi-même, mais je le constate aussi chez les autres. C'est une chose qui revient énormément dans les lettres que je reçois, surtout chez les jeunes, mais pas seulement. C'est comment supportez-vous d'être vous-même ? Comment supportez-vous les remarques des autres ? Les autres ne vous disent-ils pas sans cesse que vous êtes un être différent ? Comment le supportez-vous ? Ben oui, bien sûr que les autres me disent ça sans cesse, mais c'est ce que j'essaye de dire aux gens. Comment pourrait-il en être autrement ? Nous sommes en effet tous des êtres différents. Est-ce que c'est si grave, les réflexions des autres ? Est-ce que nous ne pouvons pas tout simplement le supporter ?
Est-ce qu'on a raison de séparer votre œuvre entre, d'une part, une œuvre autobiographique, par exemple Stupeur et tremblement, et d'autre part, une œuvre fictionnelle, par exemple, les combustibles, où ça n'a pas de sens ?
Pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Je comprends qu'on le fasse, ça s'explique, vu de l'extérieur. Vécu de l'intérieur, Ça n'a pas beaucoup de sens. J'ai autant l'impression que tous mes livres sont autobiographiques, c'est-à-dire que mes livres de fiction sont mon autobiographie intérieure. Ce sont des situations, soit que j'ai vécues sans que je puisse en parler, soit que j'ai fantasmées, soit que j'ai vécues intérieurement. Donc il faut vraiment avoir lu tout ce que j'ai écrit, aussi bien fictionnel ou non, pour avoir l'autobiographie complète. Parce que dans mes livres autobiographiques, il y a toujours aussi quelque chose qui manque. Comme je sais que je suis identifiable, même si je me confie avec une grande sincérité, il y a forcément une limite que je ne dépasserai pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai quand même un petit instinct de préservation et puis aussi l'instinct de préservation des gens de mon entourage. Donc, je m'arrêterai forcément quelque part. Mais on aurait tout autant de raisons de dire que tous mes livres sont de la fiction que de dire que tous mes livres sont autobiographiques.
On va continuer dans les cases et les catégories. Est-ce qu'on a raison de séparer les stylistes et les conteurs d'une manière générale? Est-ce que pour vous, ça a un sens?
Je ne pense pas que ça ait un sens. Je pense que même quand un écrivain n'est pas conscient de faire du style, il en fait encore. Ça n'existe pas un écrivain sans style. On a beaucoup dit ça, par exemple, pour Camus, L'étranger de Camus, on a dit que c'était le degré zéro du style, mais ça n'a pas de sens, parce que dès que quelqu'un écrit comme Camus, ça se sent. Enfin, il écrit au passé composé, c'est une écriture très très particulière, on la reconnaît entre mille. Donc, ne pas avoir de style, c'est juste impossible.
Vous le disiez que les critiques de livres vous ont appris des choses sur vous. On le sait peut-être pas tant que ça en France, mais il y a beaucoup d'études universitaires sur votre œuvre. Est-ce que les études universitaires vous ont appris également des choses sur vous, sur votre œuvre?
Oh, mais énormément. C'est vrai qu'il y a eu de magnifiques sommes qui ont été écrites sur moi à l'université. Je pense en particulier à Laureline Amagneux à Paris, qui a énormément écrit sur moi, mais aussi dans des universités étrangères. Je pense à Mark Lee au Canada ou à d'autres chercheurs au Japon, en Ukraine, etc. Ça m'a énormément appris sur moi. Bon, je dois tout de suite préciser, quand je comprenais, parce que j'ai évidemment reçu mon lot de thèses incompréhensibles. Je dis ça sans ironie, le jargon est parfois incompréhensible. Ça ne veut pas dire que ce qui était écrit était des bêtises, mais ça m'a, oui, réellement beaucoup, beaucoup, beaucoup appris sur moi.
Comment vous réagissez face aux lectures qui sont totalement différentes ou qui peuvent vous sembler à côté de ce que vous avez voulu mettre dans votre livre?
Ça se produit assez souvent et je m'efforce de ne pas pousser des cris d'orfraie. Certaines lectures me font l'effet d'être des contresens purs et simples et en même temps, j'essaye toujours de me dire « Mais qui te dit qu'il n'y a pas quelque chose de vrai là-dedans? Tu ne sais pas tout ?» Il faut attendre. Bon, je me permets souvent de dire que ce n'est pas du tout comme ça que j'avais senti mon livre, mais je me garderai bien d'affirmer que j'ai raison. Très souvent, je ne sais pas. Et très souvent, il a fallu du temps pour que je m'aperçoive que certains aspects de lecture qui me faisaient l'effet d'être des contresens étaient peut-être quand même un petit peu vrais.
C'est précieux d'avoir tous ces regards sur vos écrits, des regards qui viennent donc aussi du monde entier.
C'est extrêmement précieux. Je dois dire que quand... Pardon.
Excusez-moi, j'allais vous demander s'il y avait autant d'Amélie Nothomb que de pays.
Oui,
où vous êtes lu.
Je pense qu'il y a autant d'Amélie Nothomb que de pays. Et heureusement, d'ailleurs, parce que... Bon, pour dire les choses simplement, avec vous, ça se passe très bien, Marie-Laure, mais aux yeux de beaucoup de gens dans la francophonie, Amélie Nothomb est souvent devenue synonyme de best-seller, et j'en suis d'ailleurs très heureuse, hein, mais du coup, pour beaucoup de gens, pour beaucoup de gens, Amélie Nothomb n'appartient plus à la littérature, hein, c'est comme ça, à partir d'un certain succès, forcément, vous n'êtes plus un écrivain littéraire, et on vous regarde avec hauteur. Je sais qu'il existe aussi beaucoup d'universités en France, en Belgique et en Suisse, où quand un étudiant veut travailler sur moi en lettres, le professeur lui dit, mais il n'en est pas question, ce n'est pas de la littérature. Bon. Voilà, je ne vais pas me lamenter pour ça, ce n'est pas si grave. Mais pour ça, ça fait énormément de bien quand, à côté de ça, on reçoit une thèse de l'université de Tchernobyl. Excusez-moi de citer celle-là, mais c'est une des plus récentes que j'ai reçues. C'est très impressionnant de recevoir une thèse de l'université de Tchernobyl. Ça m'a particulièrement frappée parce que 2 mois avant, je recevais une thèse de l'université de Fukushima. Donc, je me suis demandé s'il n'y avait pas un truc nucléaire dans mes bouquins, quand même, pour attirer tellement de désastres nucléaires. Et alors, je les lis dans la mesure de mes moyens, puisque quand on m'envoie des thèses sur moi en turc ou en coréen, évidemment, c'est un petit peu difficile. Mais j'ai, par exemple, beaucoup appris sur moi par des thèses finlandaises, où le regard finlandais sur mes livres s'avérait d'une... très intéressant et qui d'autre qu'un Finlandais pouvait m'apprendre que mes lecteurs, que mes personnages avaient une façon tellement finlandaise de vivre finalement.
Les gens qui vous lisent achètent un Amélie Nothomb chaque année. Est-ce que vous, il y a des auteurs dont vous achetez contemporains, dont vous achetez les livres automatiquement?
Bien sûr, j'achète automatiquement les Haruki Murakami, les Delphine de Vigan, les Emmanuel Carrère, les Stéphanie Hochet, et certainement bien d'autres qui ne me viennent pas à l'esprit ici.
Il y a de la rivalité, il y a même de la jalousie entre vous ou pas du tout?
Soyons clairs, il n'y en a pas de mon côté. J'aime énormément admirer, je ne cherche pas un instant à me mesurer, par exemple avec Emmanuel Carrère ou Haruki Murakami, mais je trouverais absurde de me mesurer à d'aussi grands écrivains. Je ne songe pas une seconde même à arriver à leur cheville. Je pense qu'il faut lire les écrivains qu'on admire, parce que l'admiration est un bon sentiment qui vous tire vers le haut, et on a toujours besoin d'être tiré vers le haut.
Est-ce que vous allez un jour, Amélie Nothomb, écrire sur votre expérience amazonienne? Et j'aimerais que vous expliquiez aux auditeurs ce qu'elle a été.
Alors, mon expérience amazonienne, qui est encore d'actualité, puisque je n'ai qu'un seul désir, c'est de retourner en Amazonie.
Qu'est-ce qui s'est passé en Amazonie?
J'y suis déjà allée 3 fois et j'y retournerai certainement. À chaque fois, c'est la même chose. La première fois, c'était en 2012. Je suis partie m'isoler pendant 3 semaines au cœur de la forêt amazonienne, dans un village d'Indiens, loin de toute forme de civilisation, ni électricité, ni langue commune avec les gens, dans l'idée d'être initiée à l'ayahuasca. Qu'est-ce que l'ayahuasca ? L'ayahuasca est une substance qui est légal au Pérou. Je suis toujours allée en Amazonie du côté péruvien et non du côté brésilien, pour des raisons politiques. Au Pérou, l'ayahuasca est légal, il est ici classé stupéfiant. C'est une substance comparée à laquelle le LSD, c'est le bac à sable. Hein. C'est le psychédélique le plus violent. Non, il paraît qu'il y en a un plus violent encore qui s'appelle l'iboga en Afrique, mais celui-là, je ne l'ai pas essayé. C'est le psychédélique le deuxième plus violent qu'on puisse prendre sur Terre. Tout le monde n'a pas le droit d'en prendre. Il faut passer des tests pour voir si on va pouvoir le supporter. Il semblerait que j'ai satisfait aux tests. Et j'ai fait donc 3 sessions d'ayahuasca dans ma vie. C'est ce qui m'est arrivé de plus énorme de toute ma vie. Et je n'ai qu'une seule idée, c'est d'y retourner et de recommencer.
Je veux des détails.
Eh bien, il m'est arrivé dans ma vie de faire des tripes de champignons, des tripes de LSD. C'était pas mal, hein, franchement, ça m'a beaucoup appris, beaucoup apporté. Mais à tous les coups, je savais quand même que voilà ce que je faisais, c'est que j'avais pris un stupéfiant et que je faisais un trip. Je vous assure que l'ayahuasca, ça n'a rien à voir. C'est une expérience d'un autre ordre. C'est vous rencontrer quelqu'un. Vous rencontrez l'ayahuasca. L'ayahuasca est considéré comme une divinité. Et je vous assure que quand vous en avez pris, en tout cas moi je n'en doute pas, parce que je l'ai rencontré plus d'une fois, et que c'est vraiment une déesse, c'est génial. Vous avez l'occasion de rencontrer une déesse, la déesse vous parle, elle vous explique des trucs, si ça se passe bien, elle vous prend dans les bras, mais écoutez, moi je n'ai qu'un seul désir, c'est de recommencer.
Est-ce que vous allez écrire un livre sur cette expérience amazonienne ?
J'ai déjà écrit un livre sur cette expérience amazonienne qui m'a été refusée par les éditions Albin Michel. Je ne sais pas si les éditions Albin Michel ont eu raison de me refuser ce manuscrit. Je pense que j'écrirai encore sur ce thème. Il n'est pas certain que je sois prête. Je pense que ça demande une très longue digestion.
Pourquoi Jérôme Bosch est-il un de vos peintres préférés? Est-ce qu'il y a des similitudes entre son œuvre et la vôtre?
Je pense qu'il y a des similitudes entre l'œuvre de Jérôme Bosch et la mienne. Je ne suis pas belge pour rien. Jérôme Bosch est un peintre brabançon. Il montre un monde que j'ai l'impression de voir aussi, un monde partagé entre le grotesque et l'extrême beauté, entre la monstruosité et le sublime. Parfois, le sublime et la monstruosité se mêlent tellement fort qu'on ne peut pas les différencier. C'est un monde qui me parle beaucoup.
Qu'est-ce qu'on ne voit pas, Amélie Nothomb, en vous lisant et qui est sous nos yeux?
Comme j'ai peur, comme je dois sans cesse surmonter cette peur. Je ne sais pas si on voit à quel point tout ceci est ambitieux et combien cette ambition est démesurée par rapport à moi. Comme ça n'allait pas de soi. Si, ça allait de soi quand j'étais enfant de me permettre de telles ambitions. Vu tout ce qui m'est arrivé adolescente, il n'y avait plus aucune raison qu'une de ces ambitions soit possible.
Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'on ne vous prend pas assez au sérieux?
C'est peut-être vrai, mais ça a aussi de très bons côtés. Le bon côté de ne pas être pris au sérieux, c'est que ça laisse une très grande liberté d'expression. Finalement, le fait de savoir que je ne serais pas prise au sérieux m'a permis d'écrire des choses très claires, qui de fait n'ont pas été vues, mais que j'ai quand même écrites. Et je ne suis pas sûre que j'aurais pu les écrire si je m'attendais à être prise au sérieux.
Est-ce que donc vous trouvez que c'est plutôt positif de ne pas être prise au sérieux?
C'est plutôt positif, mais ça a des côtés un petit peu... Ça a des côtés un petit peu déconcertants aussi.
Alors, est-ce que vous n'êtes pas responsable de ça aussi?
Je n'en sais rien. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce côté pas crédible de ma personne me colle à la peau depuis que je parle. J'ai commencé à parler tardivement, j'avais 2 ans et demi. Depuis que je parle, on ne me croit pas. Je ne sais pas, il y a quelque chose de pas crédible dans ma façon de parler. Je n'en sais rien, je ne le fais pas exprès. Donc j'imagine que j'en suis en effet responsable, mais je ne peux même pas vous dire à quoi ça tient.
Merci Amélie Nothomb, à demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Marie-Laure Delorme avec Amélie Nothomb. À voix nue, réalisation Laurent Polleré, prise de son Laurent Macchetti, coordination Daphné Abgral. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.